Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors comment se rafraîchir au cœur de l'été? Par une citronnade, une orangeade, un café frappé, une eau minérale plate ou gazeuse, avec ou sans sirop, un gazpacho, pamplemousse, tomate, orange, ou par une émission de radio. Alors Estivalitude, c'est une tentative de rafraîchissement, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour pendant l'été sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
François Hesbourg, certes, vous êtes géopolitologue et même expert en géostratégie, mais vous venez nous visiter ce matin car vous avez commis un récit vraiment inclassable, vraiment curieux, dont le titre m'a beaucoup surpris au départ, « Cet étrange nazi qui sauva mon père », tout un programme. Bonjour François Hesbourg. Bruno Fuligny, vous êtes vous un historien totalement hors norme. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont les turpitudes, les folies, les extravagances de l'espèce humaine et vous nous offrez coup sur coup deux livres horriblement drôle, les guerres stupides de l'histoire et les affreux de l'histoire. Bonjour Bruno Fuligny.
Bonjour Christophe.
Oui, ce matin, la petite et la grande histoire s'entremêlent et dansent le Sirtaki. Magnéto Juliette.
France Inter. Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore?
Christophe Bourseiller.
François Hesbourg, vous connaissiez Bruno Fuligny?
On s'est croisés. D'abord, j'ai lu certains de ses livres, notamment ceux consacrés aux diverses archives secrètes, tout à fait passionnants.
Ouais.
Et puis, on s'est croisés physiquement lors de telle ou telle signature de livres. Ben voilà, les gens qui écrivent des livres se rencontrent quand ils signent des livres.
Vous vous connaissez pas vraiment, donc vous avez, enfin, vous connaissez un petit peu, vous vous êtes côtoyés dans les salons du livre, c'est
absolument.
Ça.
Absolument.
Donc vous savez que Bruno a écrit 36 livres, hein, parmi lesquels l'Atlas des zones extraterrestres, l'art de retourner sa veste, ou encore les gastronomes de l'extrême, rien que des thèmes qu'on adore bien évidemment. Et vous, Bruno Fuligny, vous connaissiez le travail de François Hesbourg?
Oui, alors effectivement, vous savez, dans le monde du renseignement, il y a une technique qu'on appelle le brush pass, où deux individus se croisent, on a l'impression qu'il se passe rien, mais très discrètement, ils échangent quelque chose. Et avec François Hesbourg, c'est un petit peu cette histoire-là, puisque dans les salons du livre, quelquefois au Palais Bourbon ou dans divers lieux, nous croisons, nous sommes sur des thématiques assez proches, avec en même temps des méthodes de travail qui sont pas forcément les mêmes, et je suis aussi un lecteur de François Hesbourg, et en particulier il a publié il y a quelques années un livre remarquable qui s'appelle Espionnage et renseignement.
Absolument, le vrai dossier.
Oui, et qui montrait comment le monde du renseignement avait complètement changé de siècle, et qu'il fallait complètement revoir notre doctrine, nos représentations, et ce livre est tout à fait éclairant. Moi qui m'étais intéressé au renseignement du point de vue de ses archives en historien, j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage qui jetait une lumière nouvelle sur le renseignement au présent.
Alors il y a aussi hyper terrorisme, la nouvelle guerre, comment perdre la guerre contre le terrorisme, entre autres ouvrages de François Hesbourg. Mais ce matin, François Hesbourg, vous êtes quand même totalement à contre-emploi, hein, on est bien d'accord.
Totalement à contre-emploi, dans un registre auquel mes lecteurs et moi-même n'étions absolument pas accoutumés, mais c'était un livre que je devais absolument écrire, non seulement par piété filiale, mais parce que son sujet central, qui est un personnage étonnant, un militaire nazi, chimiquement pur du terme, il avait sa carte au parti et ainsi de suite, et qui sauve mon père parmi bien d'autres personnes.
Voilà.
Et je découvre progressivement qu'il n'avait pas sauvé que mon père, mais qu'il avait sauvé de l'ordre de 500 personnes, la plupart juives.
C'est extraordinaire.
Au Luxembourg, pendant l'occupation allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, commençons par votre père. Donc, votre père, c'est un monsieur qui s'appelait Georges Hesbourg, bien sûr. Et donc, dans quelles circonstances ce monsieur, ce nazi, donc, a-t-il, sauf ce qui s'appelle le baron Franz von Heuningen, dans quelles circonstances monsieur Heuningen a-t-il sauvé votre père?
Alors, mon père était, au moment de l'invasion allemande, un étudiant, il était un militant catholique, comme on pouvait l'être à l'époque, il présidait le syndicat des étudiants catholiques luxembourgeois, et lorsque l'Allemand arrive, il se met tout de suite à organiser des manifestations. C'était un peu imprudent, et il se retrouve d'ailleurs au bout de quelques semaines à faire un premier stage en prison, avec un passage par la case siège de la Gestapo à Luxembourg. Et pour la faire courte, il se rend compte qu'il a quand même intérêt à aller caser ses abattis ailleurs pendant qu'il en est temps. et il capte à un moment donné un discours du Gauleiter allemand à Luxembourg qui dit « Ah ben que ceux qui s'estiment ne pas être dignes de faire partie du Reich millénaire, que ces enfrancisés-là
s'en aillent
et retrouvent les Français. » Mon père le prend au mot et il écrit une belle lettre en disant « Je suis pas digne d'être membre du Troisième Reich, je voudrais partir s'il
vous plaît. » Ce qui était très dangereux.
Oui, j'ai toujours copie de la lettre, elle est complètement folle. Et il se retrouve dans le bureau de ce baron.
Alors le problème, sa chance inouïe, c'est que c'est le baron Franz von Heuningen qui va récupérer la lettre, c'est ça ?
Il va récupérer la lettre, et il dit « Mon père... vous savez, normalement, vous devriez vous retrouver contre un mur, mais voilà comment vous allez faire. »
Et il lui explique comment s'enfuir.
Voilà, comment s'enfuir. Alors, il faut faire des démarches, et il se retrouve quelques semaines plus tard, juste avant que les Allemands n'imposent la conscription obligatoire des Luxembourgeois pour aller sur le front de l'Est, il se retrouve du côté de Grenoble, en France, où il fera de la résistance par ailleurs, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais mon père ignore. Jusqu'à la fin des années 80, peu de temps après qu'il ait cessé ses activités professionnelles, c'est seulement à ce moment-là qu'il découvre qui était le baron.
Qu'il avait sauvé. Enfin, il découvre juste l'identité du baron qu'il avait sauvé.
Il découvre non seulement l'identité du baron, mais il découvre surtout qu'il n'avait pas été le seul à avoir été sauvé.
Alors, pour mieux comprendre la situation au Luxembourg à cette époque-là, j'aimerais qu'on entende un document. C'est Maurice Schumann, fondateur de l'Union européenne, lui-même luxembourgeois, le 10 octobre 1944.
Quand le Reich décida d'imposer aux Luxembourgeois le service militaire obligatoire, la grève nationale fut aussitôt déclenchée. Pour la réduire, l'ennemi commença par fusiller 22 patriotes, puis, comme en Moselle, comme en Alsace, il prit comme otage les parents de tous les jeunes luxembourgeois réfractaires. Résultat, ces luxembourgeois, auxquels les docteurs de la géopolitique et de la grosse Kultur avaient fait l'honneur de les considérer comme membres du Deutschtum, sont enflammés par une haine de l'Allemagne qui brille dans tous les yeux.
Voilà, cette fameuse haine de l'Allemagne, alors dont parle très joliment Maurice Schumann. Alors, ce qui est vrai, c'est que vous faites votre enquête sur le baron Franz von Heuningen, et là, vous découvrez que cet homme, et c'est ça qui est intéressant, est totalement mystérieux. C'est-à-dire, il a sauvé des centaines de personnes, il a participé au complot contre Hitler en juillet 44. C'était quelqu'un qui était nazi au départ, et puis qui, quand il a vu arriver la guerre, s'est dit « je suis dans le camp des fous », et qui a complètement changé d'opinion. Le problème, c'est que il n'en parle jamais.
Il n'a laissé aucune trace écrite, aucune espèce d'élément tangible, et circonstance aggravante, si je puis dire, ce qui reste de sa famille, c'est une grande famille noble, les Heuningen en Allemagne, est elle-même extraordinairement fermée,
mutique,
à toute tentative d'essayer d'éclairer la personnalité, le personnage.
C'est d'autant plus bizarre qu'il est apparemment un héros. Donc on devrait être fier de lui. Pourquoi ce n'est pas le cas?
Il ne faut pas oublier que les auteurs de l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944 seront très longtemps considérés, jusque pendant les années 60-70 du siècle dernier, comme des traîtres. Et les survivants... où les familles qui leur succéderont ne toucheront de pension de la République fédérale d'Allemagne que des années plus tard. Et il y a encore des milieux.
Il y a un côté nazifié, quoi. Ils ont du mal à se dénazifier, en réalité. Ils ont honte de quelqu'un qui, en réalité, était un héros.
Oui, alors, c'est nazifié n'est pas forcément le terme qui convient. Par contre, il y a un côté chauvin, ultra-chauvin, et qui fait qu'effectivement, quelqu'un qui voulait tuer les chefs de l'État, Hitler était le chef de l'État, ne peuvent être que des traîtres. C'est évidemment très troublant. Hey,
Je suis venu te dire que tu peux changer.
Pas luxembourgeois, mais québécois. Il est aujourd'hui âgé de 24 ans. Il est tout jeune. Hubert Lenoir, Fille de personne, un disque qui s'inspire d'un roman d'Arlène. Vous saurez tout, écrit par sa compagne Noémie Leclerc. Si, si.
Estivalitude sur France Inter.
Bruno Fuligny, vous avez écouté ce qu'a dit François Hezour, il nous a fait tout un exposé sur ce personnage mystérieux. Il y a quand même une thèse possible quand on écoute son silence assourdissant, si je puis dire, écouter le silence, c'est le fait que ce monsieur, cet étrange nazi qui sauva le père de François Hezbourg, était peut-être un agent secret.
C'est une possibilité, vous savez, c'est l'adage de Lao Tzu, hein. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. C'est vrai que cette règle du silence est troublante. Alors il y a aussi une explication classique, hein, c'est qu'on sait bien qu'au sein du Troisième Reich, et même chez les nazis encartés, il y avait quand même une fracture entre les tenants du vieux nationalisme appartenant à l'aristocratie, comme Stauffenberg, et ceux qui effectivement ont monté les attentats contre Hitler, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, et puis les nazis, je dirais, issus de la violence urbaine, pour lesquels, évidemment, ces aristocrates avaient le plus grand mépris, parce qu'ils avaient une éthique un petit peu différente. Et puis, ce que ça nous montre aussi, et moi qui me passionne dans cette histoire que je découvre, c'est aussi qu'il n'y a pas, d'un côté, la grande histoire, et de l'autre, la petite
c'est
histoire.
C'est vrai, absolument.
Les deux sont totalement
c'est
imbriqués.
Ça que, bien sûr, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, je trouve que votre livre, François Hezbourg, c'est à la fois la petite histoire de cet homme que vous avez, qui a sauvé précisément votre père, et puis vous nous racontez du coup toute l'histoire du Luxembourg et toute l'histoire du XXe siècle.
Oui. Alors, est-ce que c'était un agent secret? Ça, c'est une vraie question. Et l'hypothèse n'est pas du tout absurde, pour toutes sortes de raisons, c'est trop long d'expliquer ici. Mais, à vrai dire, les recherches là-dessus n'ont rigoureusement rien donné, alors que...
Ça, c'est un signe.
Non. Alors, c'est dans un monde où beaucoup d'archives ont été détruites pendant la guerre et ainsi de suite, il y a eu un coup de chance invraisemblable et que notre ami Fuligny reconnaîtra bien. Les Français, en 1945, ils vont occuper le Palatinat qui jouxte le Luxembourg, et ils vont récupérer les seules archives, en dehors d'une autre ville allemande, mais les seules archives complètes de la Gestapo, au sens large du terme, et de Trèves. Et là, il y a 21 mètres linéaires de documents.
Et dans ces archives, il n'y a pas Franz von Heuningen ?
Alors si, si, bien sûr. L'Allemagne était un État policier. Et s'il n'y avait pas eu de dossier Heuningen, alors là, effectivement, mes antennes se seraient mises à vibrer. Mais si, il y avait un dossier Heuningen, mais qui, grosso modo, disait ce type-là n'est pas un espion, entre guillemets. Et d'autre part, comme les Français ont exploité ces archives, le deuxième bureau s'est installé pendant 4 ans, les Français vont poursuivre les agents de la Gestapo, ils vont les interroger, tout ça dans les règles de l'art du renseignement le plus parfait, et avec les outils informatiques modernes, puisque ces 21 mètres linéaires ont été numérisés, ce qui est également une chance invraisemblable, on a pu reconstituer l'écosystème du renseignement allemand dans toute cette partie de l'Allemagne. Et en l'occurrence, le baron, tout en essayant de montrer qu'il avait fait son devoir de patriote, lorsqu'il va se retrouver devant les tribunaux nazis, parce qu'il va y juger le baron en pleine guerre, en fait, non, c'est pas un espion.
Alors Bruno Fulinghi, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les guerres stupides de l'histoire », mais vous précisez « Toute guerre est stupide », mais certaines le sont plus que les autres. Alors c'est vrai que dans votre livre, il y a des guerres absolument incroyables dont j'ignorais tout à fait l'existence. Par exemple, prenons au hasard, en 1275, la guerre de la vache.
Oui, ça correspond à une partie du territoire de l'actuelle Belgique. Et il va y avoir plusieurs années de guerre, tout simplement parce qu'une vache a été volée. On est dans un cadre féodal, donc la vache est volée dans une seigneurie, elle est retrouvée dans une autre. Alors il y a un conflit entre deux justices pour savoir qui va agir, qui doit payer l'amende, à qui. Et évidemment, on est à une époque où les seigneurs n'attendent qu'une occasion de se faire la guerre, parce que voilà, on peut violer, on peut piller, on peut incendier des villes, c'est la vraie vie, quoi. Donc une vache volée, ça suffit pour déclencher une guerre qui va littéralement ravager toute la région autour, entre Liège et Namur, grosso modo.
Alors je pourrais vous parler également de la guerre du saut de bois, de la guerre du cochon, parce qu'il y a beaucoup de raisons pour se faire la guerre. Il y a une guerre que dont j'ignorais l'existence, c'est la guerre de 14. La guerre de 14 qui oppose, selon vous, les Allemands aux Iroquois.
Oui, c'est très sérieux, c'est très très sérieux. Et vous avez tort de sourire à Christophe Boursaillet du sacrifice des Iroquois. Que se passe-t-il en 1914? Quand la Grande Guerre est déclarée, donc nous sommes en août 1914, eh bien il y a des émeutes xénophobes dans Berlin. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas intérêt à être français ou belge ou luxembourgeois même ou américain dans Berlin. Et il se trouve qu'à Berlin, il y a un cirque avec une petite troupe d'Indiens qui vient de débarquer d'Amérique du Nord. Et donc ces Iroquois sont vraiment gravement, gravement molestés par les Berlinois. À telle enseigne que les policiers les enferment, en fait, censément pour les protéger. C'est aussi une façon de décoffrer. Et puis, quelques temps plus tard, la nouvelle arrive en Amérique du Nord, d'abord côté Canada, ensuite côté États-Unis. Et en fait, les Iroquois se sont formés de longue date en confédération. C'est pas vraiment un État reconnu, mais c'est une entité politique. Hein, les six nations iroquoises.
Un peu comme l'autorité palestinienne aujourd'hui,
qui n'est
pas encore un État.
En quelque sorte. Et donc les Iroquois, furieux, déclarent la guerre à l'Allemagne, mais officiellement. Et ils s'engagent assez massivement dans l'armée canadienne. Le Canada est en possession britannique à l'époque.
Il n'y a pas eu d'affrontement direct entre les Allemands et les Iroquois. C'est passé par le biais de l'armée canadienne.
Disons que les Iroquois manquaient singulièrement de flotte de guerre pour aller porter le conflit en Europe. Donc ils ont fait intelligemment. Ils se sont engagés sous les couleurs du Canada britannique, puis des États-Unis. Et ils se sont vraiment, vraiment, vraiment battus. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'arrive, il y aura bientôt 100 ans, le traité de Versailles, on invite toutes sortes de pays, même le Libéria, le Honduras, bon, des belligérants tout à fait mineurs, mais personne ne pense à convier des chefs à plumes à Versailles pour signer avec l'Allemagne.
C'est bien dommage, c'est très dommage. C'est scandaleux. Mais
oui, parce qu'ils ont vraiment combattu. Ils ont combattu, d'ailleurs ils ont été très appréciés en tant que combattants, ils ont eu des pertes importantes. Et donc, comme ils ne sont pas là à Versailles, eh bien aujourd'hui encore, la Confédération iroquoise est techniquement en guerre avec l'Allemagne. C'est un traité qui n'a jamais été signé, j'espère qu'il le sera un jour.
La guerre continue, on espère qu'il n'y aura pas trop de bords des deux côtés, parce que ça serait quand même dommage.
Elle a rebondi sous le Troisième Reich, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu des exactions antisémites, puis l'attaque de Pearl Harbor, puis la déclaration de guerre des États-Unis à l'Axe, les Iroquois ont rappelé qu'ils étaient toujours en guerre avec l'Allemagne et qu'ils désapprouvaient absolument l'attitude du gouvernement nazi.
Alors il y a une guerre qui nous concerne directement, nous les Français, je voudrais quand même qu'on en parle un petit peu, c'est une guerre importante, c'est la guerre de 1962 qui nous oppose à Monaco. Alors écoutons ce document.
Eh bien, il y avait foule cette nuit sur les routes qui vont à Monaco. Beaucoup de curieux venus voir les douaniers français établir un cordon autour de la principauté. La pomme de discorde, quelle est-elle ?
Ben, c'est une question fiscale. La France demande que les ressortissants français et étrangers installés à Monaco soient assujettis à l'impôt. La principauté était devenue ces dernières années un havre pour de nombreuses entreprises soucieuses d'échapper à la fiscalité.
Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Les monégasques sont très heureux de ce qui arrive, monsieur.
Et j'espère qu'il en ressortira un grand bien pour nous.
Que souhaiteriez-vous, vous, monégasques ?
Maintenant, notre indépendance absolue et un bon port franc. Un bon port franc.
Voilà, merci monsieur. Et vive Monaco et notre grand souverain.
Ce sont des traîtres, Bruno Fugni, les monégasques. J'adore l'idée qu'il y a eu une guerre en 1962 qui a opposé la France à Monaco. Il n'y a que vous pour écrire ça dans les guerres stupides de l'histoire.
C'est une guerre pacifique, en fait, puisque c'est un blocus. En fait, on est au moment où beaucoup de pieds noirs songent à quitter l'Algérie. Plutôt que d'aller s'établir en France où ils vont être taxés, certains sont tentés d'aller à Monaco ou en tout cas de placer leurs avoirs à Monaco. Donc il y a plein de sous qui échappent au fisc français. Par ailleurs, n'oublions pas que le prince Rainier a épousé Grace Kelly, et Grace Kelly est américaine. Donc, il a nommé un conseiller qui vient du département d'État. Donc, on commence à se demander à l'Élysée, le général de Gaulle, si les Américains ne sont pas en train de créer effectivement un port franc, une enclave pro-américaine sur le littoral français. Ça, c'est inacceptable. Donc, le général de Gaulle dit, on va faire le blocus. Et on fait pas intervenir l'armée, on fait intervenir en tout et pour tout 6 douaniers. 3 d'un côté, 3 de l'autre.
C'est violent.
On bloque la frontière, mais la principauté est complètement asphyxiée. Elle a du mal à s'alimenter. On n'ose pas réquisitionner les yachts de milliardaires pour aller chercher des patates en Italie. Et à partir de là, il va y avoir une négociation. Mais figurez-vous que la France a un ministre d'État qui la représente et qui assure une forme de gouvernement à Monaco. Ce ministre est convoqué chez Rainier. Et on a ses mémoires. L'entretien est très, très violent, à telle enseigne que la rumeur circulera d'une gifle, exactement comme pour l'histoire d'Alger, qui va déclencher au XIXe siècle la conquête de l'Algérie.
Cette guerre a provoqué une gifle, c'est déjà beaucoup. Un disque historique, dans tous les sens du terme, pour vous deux, mes chers invités. En 1971, Leonard Cohen chante « Jeanne d'Arc ».
Now the flames, they follow Joan of Arc. As she came riding through the dark, no moon to keep her armor bright, no man to get her through this very smoky night. She said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Well, I'm glad to hear you talk this way. You know, I've watched you riding every day, and something in me yearns to win. Such a cold and lonesome heroine. And who are you? She sternly spoke to the one beneath the smoke. Why, I'm fire, he replied, and I love your solitude. I love your pride. La 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 la.
Joan of Arc, donc Jeanne d'Arc en anglais, vous m'aurez compris, une chanson magnifique de Leonard Cohen, extrait de ce qui est peut-être son meilleur album, cette chanson Songs of Love and Hate.
Estivalitude, Christophe Bourseiller sur France Inter.
Mes invités ce matin sont François Hesbourg et Bruno Fuligny. Alors François Hesbourg, moi je pense que vous auriez pu co-signer l'autre livre que Bruno Fuligny a dirigé cette année, qui se nomme, écoutez-moi bien, Les affreux de l'histoire, les pires crapules de l'humanité, de l'antiquité à nos jours. C'est important aussi.
C'est le premier volume d'une longue série, je crois.
Tout à fait. Mais ce qui m'étonne, voyez François, c'est que dans le livre de Bruno, je ne vois ni Hitler, ni Staline, ni Néron, ni Caligula. Vous avez été très sélectif, Bruno Fuligny.
C'est pas ça, je vais dire une horreur, mais Hitler ou Staline, à mon avis, étaient sincères. Je veux dire que c'était des personnages monstrueux, meurtriers,
abominables. Ils étaient sincèrement monstrueux.
Mais voilà, je pense qu'ils croyaient véritablement à ce qu'ils ont mis en œuvre. Alors que dans leur sillage, on trouve des personnages qui sont tout aussi meurtriers, monstrueux, mais qui auraient pu être autrement, qui ne croyaient pas plus que ça ni au nazisme, ni au stalinisme, et qui se sont dit, tiens, il y a peut-être moyen là de me faire ma petite principauté, d'accumuler un peu d'argent, d'assouvir mes petites soifs sexuelles pas
c'est
trop avouables.
Oui, par exemple, vous en citez deux, là, je vous le dis, par exemple, le pharaon Ptolémée VIII, qui va dépecer son fils pour humilier son épouse, qui par ailleurs est sa sœur.
Voilà. Épouser sa sœur chez les pharaons, c'est tout à fait classique.
C'est banal. Voilà, c'est banal.
Ne plaquons pas
mais
notre moralité étroite d'aujourd'hui.
Mais dépecer le fils, c'est un peu plus...
Oui, alors il se trouve que la sœur, comment dirais-je, se comparait à Isis. Et donc, bah, pour voir si elle avait les pouvoirs d'Isis, le jour de l'anniversaire de sa sœur et épouse, il lui fait porter un très joli meuble, magnifiquement marketé, avec plein de jolis tiroirs, émerveillé par ce meuble. Et chaque fois qu'elle ouvre un tiroir, il y a un morceau de son fils à l'intérieur. Il dit, voilà, si tu es Isis, tu dois pouvoir le reconstituer. Ça, c'est l'humour selon Ptolémée VIII.
Alors, il y a aussi un bolchevique, Beria, qui, lui, torture à mort son père adoptif pour faire disparaître toute trace de sa jeunesse pauvre. C'est horrible.
C'est abominable. Et Beria est
mais c'est épouvantable.
Beria est un personnage, justement, qui, à mon avis, est plus crapuleux que Staline. Il profite de Staline, il se met dans le sillage de Staline pour suivre ses propres desseins. Beria n'est pas du tout un idéologue. Est-il communiste ? C'est quelqu'un qui a renseigné la police politique tout en infiltrant les bolcheviks, puis quand les bolcheviks deviennent puissants, fait le mouvement rigoureusement inverse.
C'est une ordure
absolue, c'est une ordure, intégrale.
Voilà. C'est ce que vous aimez, vous dites, je m'intéresse aux crapules objectives, aux ordures insignes et mémorables. C'est bien vu. Alors, il y a parmi vos monstres un personnage. Ça m'a un petit peu surpris. Écoutons.
Le Parti communiste d'Amérique fait tout ce qui est en son pouvoir pour subjuguer l'esprit, l'âme et le cœur de notre jeunesse. Durant ces deux dernières années, jamais il n'a travaillé avec autant de fièvre que pour pénétrer dans plusieurs de nos collèges et universités et pour tâcher d'y enrôler les jeunes de ce pays et les inféoder à une puissance étrangère, l'Union soviétique.
the Soviet Union.
Alors le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est Edgar Hoover, qui est le fondateur du FBI aux États-Unis. En quoi est-il un affreux pour vous?
Bah, c'est un horrible personnage dans la mesure où lui aussi, c'est un homme de la police politique. L'exploit, c'est qu'il a réussi à créer une police politique au sein d'une grande démocratie. Il va quand même se maintenir presque un demi-siècle à la tête de cet instrument qu'il a forgé et qui devient son propre instrument de pouvoir. C'est-à-dire que à un moment, on sent bien qu'il y a un glissement. C'est-à-dire que le FBI n'est pas seulement un service qui protège les États-Unis des ingérences extérieures. Ça devient l'instrument de pouvoir du directeur qui finit par faire plier les présidents démocratiquement élus. Alors plusieurs fois, des présidents se disent, convoquent Hoover pour lui signifier qu'on va se séparer de lui, qu'on va renoncer à ses services. Mais lui a sous le bras un petit dossier, une petite photo, un petit secret qui fait que de président en président, on est obligé de le maintenir. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à fabriquer des preuves quand il le faut. C'est qui grille la politesse à tout le monde. Si jamais un de ses agents obtient un succès, comme l'arrestation de Dillinger, ça lui fait un petit peu de l'ombre, il casse cet agent, il l'oblige à changer de métier. C'est une véritable crapule, un personnage menteur, dissimulateur, manipulateur, un personnage abominable en fait. Et d'ailleurs, lorsque le président Johnson apprend sa mort, il prononcera plus tard un éloge funèbre magnifique, mais le cri du cœur, c'est « Ah !» Ce vieil enculé. Voilà, enfin on en est débarrassé.
François Hesbourg, si je devais vous demander pour vous qui est le type le plus affreux aujourd'hui, ça serait qui?
Oula. Oula. Et écoutez, au risque de sortir une banalité, je crois que l'un des personnages les plus horribles, c'est réellement le président américain.
Ah oui, Donald Trump.
C'est Donald Trump. Et non pas à cause de la politique qu'il mène, qui à certains égards peut se défendre ni plus ni moins que d'autres politiques, mais cet homme incarne tous les défauts que vous venez d'énumérer il y a quelques instants. Et pour moi, peut-être le moment le plus pénible, ça a été sa rencontre avec la jeune femme yazidi, prix Nobel paix,
oui.
Et dont Trump se moque visiblement comme d'une guigne, jusqu'au moment où tout d'un coup, dans son cerveau reptilien, percute l'information prix Nobel de la paix. Il veut être prix Nobel de la paix. Elle vient de lui expliquer que sa famille a été tuée, dispersée, et ainsi de suite. Et le seul truc qu'il trouve à dire, c'est... Comment vous avez fait
pour être prix Nobel de la paix?
Pour être prix Nobel de la paix. Comment il faut faire?
Alors, François Hesbourg, j'aimerais bien qu'on écoute le son qui vous résume, parce que je vous ai demandé quel était le son qui vous résumait. Et le son qui vous résume, vous allez voir, c'est ça. Alors, c'est pas de la musique contemporaine, hein, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que c'est, François?
Alors, ce sont les signaux émis par le premier satellite artificiel de notre planète, Sputnik 1, et en 1957. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce son-là? Et c'est à la fois, bien sûr, l'ouverture d'une nouvelle ère. L'homme quitte la planète, quelque part. Mais c'est aussi bip-bip, bip-bip, c'est-à-dire c'est numérique. 0, 1, 1, 0. C'est la préfiguration, la préfiguration de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, une société qui, à certains égards, est devenue post-humaine. C'est quelque chose de très très fort.
Alors pour vous, Bruno Fellini, le son qui vous résume, on va l'écouter un petit peu, c'est un extrait du discours de Jean Jaurès dans le téléfilm La séparation de François Hans, et c'est Jean-Claude Drouot qui joue Jean Jaurès, et le scénario est de vous.
C'est en respectant, dans la limite même de leur fonctionnement, les principes d'organisation des églises. Et c'est en dressant contre ces églises la grande association des hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l'humanité renouvelée. C'est par là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie.
Bah, c'est magnifique, écoutez. Merci de nous avoir fait entendre cette très belle phrase de Jean Jaurès.
Oui, je voulais vous rassurer, je ne m'intéresse pas qu'aux crapules.
Apparemment, c'est dommage presque.
C'est dommage, mais il y a aussi chez les grands humanistes des moments de grâce, des moments extraordinaires, et je m'emploie à les faire connaître, à les faire revivre, en faisant parfois appel à des comédiens comme Jean-Claude Drouot.
Alors, je vous propose un sujet pour le bac à François et Bruno. Le rock peut-il être turc? Donc, réponse ici. C'est beaucoup mieux qu'un kebab, je crois, le groupe turco-hollandais Altingun dans Leila sur France Inter, une programmation anatolienne, amstelodamoise et psychédélique d'Elsa Béranger. Au fait, Altingun, ça veut dire âge d'or en turc. Eh oui.
Vous avez dit,
vous avez dit.
Ah non,
vous l'avez dit.
De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt?
Le scénario, hélas, le plus vraisemblable, c'est qu'on continuera à fonctionner en sous-potentiel économique, car nous aurons gardé l'euro. Pendant ce temps-là, le reste du monde continuera de progresser. Et puis un jour ou l'autre, dans l'un ou l'autre pays européen, la révolte contre l'Europe se matérialisera par un changement calamiteux de politique et l'édifice implosera.
Alors ça, François Heisbourg, c'est ce que vous disiez en 2014, et malheureusement, votre prédiction s'est avérée, car effectivement, on a vu apparaître des révoltes, on a vu ce qui s'est passé en Italie et dans d'autres pays avec ces mouvements populistes.
C'est, c'est toujours très désagréable de se trouver dans la situation où on annonce qu'un problème va se poser, où il se pose effectivement, parce que, bon, Cassandre, elle finit très mal.
On n'aime jamais Cassandre.
Dans l'histoire.
Hein. Bah oui, c'est vrai.
Cassandre, c'est
vrai.
Pas bon. Hein.
Mais donc l'Union Européenne, vous l'aimez pas beaucoup?
À l'Union Européenne, je l'adore. Je la veux.
Ah, d'accord.
Je suis fédéraliste. Je suis, de ce point de vue-là, totalement macronien. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au cours de la dernière décennie, non seulement on a frôlé la catastrophe, mais on n'a mis en place aucune mesure qui permette d'assurer la pérennité de cette entreprise politique qui est encore une fois la plus belle entreprise politique et que l'humanité ait produite depuis longtemps, un grand ensemble démocratique librement constitué. Je suis très très inquiet.
Alors j'ai une autre prédiction pour vous. Vous allez me dire si là ce qu'il faut en penser parce qu'elle va maintenant arriver à échéance. Vous avez dit en 2017, d'ici la fin de la décennie, la Corée du Nord sera en mesure d'attaquer Washington ou New York. On arrive donc, on arrive à la fin de la décennie. On serait bientôt en 2020. Est-ce le cas?
Oui, c'est le cas. Les Coréens du Nord ont expérimenté il y a 18 mois un missile intercontinental pouvant frapper les États-Unis. C'est d'ailleurs ça qui a été le prélude à la discussion qui s'est ouverte entre Donald Trump et les dictateurs nord-coréens, à Kim Jong-un. Les Coréens du Nord ont acquis la capacité. On y est. La prédiction est devenue vraie un petit peu plus tôt que prévu.
Bruno Fuligny, vous êtes vous aussi une sorte de politologue, sauf que vous, ce qui vous intéresse, c'est un phénomène assez curieux, c'est les micronations. C'est quoi une micronation, Bruno Fuligny ?
Une micronation, c'est quelque chose qui a toutes les apparences d'un État, un drapeau, des armoiries, un hymne, une monnaie, un gouvernement, une constitution souvent écrite, mais qui n'est pas reconnue. C'est un État autoproclamé. Et figurez-vous qu'il y a actuellement dans le monde plus de 400 États autoproclamés.
C'est génial.
Alors, des choses relativement sérieuses, mais aussi des choses qui paraissent un peu plus folkloriques, un peu plus chevelues. Des fois, c'est 3 ou 4 individus qui proclament l'indépendance d'un tout petit bout de territoire.
Mais c'est généralement ça.
C'est souvent ça. Mais c'est fascinant. Pour autant, ce sont des micro puissances ou des puissances infimes, mais ce sont aussi des laboratoires, comment dirais-je, d'idées politiques, et c'est en cela que c'est fascinant. Par exemple, le premier État à avoir intégré des considérations environnementales dans un texte constitutionnel, c'est une micronation.
Laquelle ?
Talosa, le royaume de Talosa, voilà, qui n'est pas forcément très connu, que vous pouvez chercher en vain.
Je voulais aussi vous poser une question sur le royaume gay et lesbien de la mer de Corail, qui a rompu avec l'Australie en 2004. La rupture est toujours d'actualité.
Alors en fait, le royaume s'est autodissous parce que entre-temps, la cause du mariage gay a avancé en Australie, mais c'était une sécession qui s'est manifestée par une sécession territoriale. Et ce qui est amusant, c'est que l'îlot de la mer de Corail qui a servi de base à cette micronation s'appelait Kato. Donc c'est l'État gay et lesbien de Kato.
De Kato avec un empereur. Et je crois l'hymne, c'était Ayam de Gloria Gaynor. C'est pas une mauvaise idée. Alors il existe aussi en France une micronation, bien sûr. C'est la République du Saugeais.
Entre Pontarlier et Morteau, à 2 pas de la Suisse, existe un minuscule État. Une micronation autoproclamée qui regroupe 11 villages. La République du Saugeais a tout d'un État. Une présidente, un blason, un hymne. Elle existe depuis 70 ans et tout est parti d'une simple blague entre le patron d'une auberge et le préfet.
Mon père, qui adorait charrier, quand le préfet est entré au restaurant, papa lui a demandé, monsieur le préfet, est-ce que vous avez un laissez-passer pour entrer au Saugeais ? Alors le préfet, en entendant ça, lui a dit, bah écoutez, ça ressemble étrangement à une république, il faut un président, je vous nomme président de cette république.
Je trouve ça admirable, vous voyez, il y a des républiques indépendantes, y compris au cœur de la France, et je ne sais pas si que l'État français soit conscient du fait qu'il est miné comme ça par des dissidences assez inquiétantes. On peut dire d'ailleurs, François Hesbourg, que le Luxembourg n'est pas loin d'être une micronation, qu'en pensez-vous, rapidement?
C'est grand comme un demi-département français, mais c'est vrai que les nations sont comme les individus, elles naissent, elles vivent, elles meurent.
Voilà,
le Luxembourg n'existait pas il y a 1000 ans. La France non plus d'ailleurs,
hein, la France non plus.
Et un jour, Luxembourg ou la France seront quelque chose de très différent de ce que sont aujourd'hui. Les nations sont des constructions. Hein.
Le Luxembourg a même été un département français qui portait un joli nom, c'était le département des forêts.
Eh ben voilà. Alors Bruno Fulini, puisque on a la chance de vous recevoir tous les deux pour découvrir vos facettes diverses, je précise que vous êtes expert dans de nombreux domaines, mais vous nourrissez un intérêt assez surprenant pour la gastronomie. Écoutez,
la tarte au vinaigre, qui pourrait paraître une chose étrange, est à peu près aussi bonne qu'une tarte au citron, ouais, par exemple. Les Malgaches font une brouillade de mélangée avec de la moelle de zébu. On peut obtenir avec de la moelle de bœuf quelque chose de très onctueux et de tout à fait comparable.
Bon, c'est assez surprenant. C'est quoi cet intérêt pour la gastronomie, Bruno? Bah,
je ne vais pas vous inviter à dîner ce soir avec ce genre de recettes.
Merci.
Mais en fait, c'est de l'histoire aussi. C'est-à-dire que cette interview, je l'ai donnée au moment où j'ai publié effectivement un ouvrage qui était une anthologie des pires recettes de grands voyageurs.
Des pires recettes de grands voyageurs.
Et en fait... On peut très très bien analyser l'histoire universelle à travers l'histoire de la gastronomie. Les grandes découvertes, c'est parce qu'on a besoin d'épices, parce que et c'est Stefan Zweig qui le dit, c'est pas moi, c'est parce que la nourriture en Europe occidentale, à la fin du Moyen-Âge, elle est pas bonne, c'est des légumes bouillis, c'est des viandes sans apprêt, c'est pas bon. Et ce qui est bon, c'est d'avoir du poivre, des clous de girofle, des choses qui valent véritablement une fortune. Un grain de poivre vaut plus cher que son poids en or, et c'est pour cela qu'on va partir au-delà des mers, au-delà des océans, et au fond, l'histoire de l'humanité, c'est aussi une histoire gastronomique. On cherche des épices, des saveurs qu'on n'a pas chez soi.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, ah oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors nous atteignons maintenant le point culminant de l'émission, bien sûr, puisque ça s'appelle Estivalitude, nous sommes au cœur des vacances, et je vous ai demandé à tous les deux, à François Hesbourg et Bruno Fulini, quel était votre plus incroyable souvenir de vacances. Alors Bruno, votre plus incroyable souvenir de vacances, ça se passe l'été 1976, c'était déjà l'été de la canicule, un peu comme en 2019.
Oui, on disait l'été de la sécheresse à l'époque, j'avais 8 ans, et c'est pas un souvenir précis, c'est un moment, ça a été un moment particulier parce qu'on n'était pas du tout dans les thématiques du réchauffement climatique, donc c'était la sécheresse, il y avait la sécheresse, on nous promettait pas la fin du monde pour si peu, mais c'était la sécheresse, et donc on se comportait différemment, les gens les plus stricts se baladaient torse nu, il y avait une espèce de nonchalance très particulière cet été-là, du coup on prenait le frais, on restait longtemps dehors le soir, et donc c'est bizarrement une des grandes vagues d'OVNI, parce qu'évidemment si vous commencez à scruter le ciel étoilé pendant longtemps, vous voyez des choses qui bougent.
Ah oui, ça me passionne, les OVNI.
Exactement, les OVNI, c'est très intéressant.
Un ufologue.
C'est très très intéressant, et puis c'est aussi l'été où Spaggiari fait le casse de Nice, été magistralement conclu par la démission surprise de Jacques Chirac qui, mal reçu à Brégançon, crée une crise politique à la surprise générale. Bref, c'était un été très très réussi. Après, c'est Raymond Barre, on va lutter
voilà,
contre l'inflation, c'est fini.
Les vacances réussies selon Bruno Fulini, hein, c'est assez particulier. François Hesbourg, vous, c'est un séjour très particulier aussi, qui se passe à Managua, capitale du Nicaragua, en 1978.
Oui, alors j'étais en vacances en Amérique centrale, j'aime beaucoup l'Amérique latine et je voulais voir un peu les ruines et les peuples d'Amérique centrale. Je monte dans un avion au Honduras, Tegucigalpa, pour ceux qui connaissent.
Capitale
du Honduras, oui. Et quelqu'un me dit, vous êtes sûr de vouloir aller à Managua, capitale du Nicaragua? Alors je dis oui, pourquoi pas. Mais il paraît qu'il se passe des choses un peu compliquées. Bon, je suis jeune, je suis vigoureux.
Il nous reste une minute.
Hein, et voilà, donc je monte. Et quand j'arrive, c'est l'état de siège. Le parlement nicaraguayen, la moitié du gouvernement ont été pris en otage par les sandinistes, l'extrême gauche nicaraguayenne, contre les dictateurs affreux. Tiens, dans votre répertoire des affreux, Somoza, ça irait très très bien, il faut un chapitre. Et pendant 3 jours, je vais vivre la prise d'otages et les mitrailleuses, les soldats, un peu comme Fabrice Del Dongo dans la Chartreuse de Parme. C'était des vacances très réussies.
Mais vous pouviez vous promener dans Managua, vous étiez confiné dans votre chambre d'hôtel?
Non, je pouvais me promener, je préférais pas le faire seul, évidemment, mais il faut voir. Managua, à l'époque, venait d'être détruit par un tremblement de terre.
En plus,
30 000 morts.
Il y en a qui n'ont pas de chance, quand même.
Pas de chance. Et non, ça, je n'oublierai jamais ces vacances. D'ailleurs, le Club Med n'a jamais vraiment ouvert de camp de vacances dans cette charmante bourgade. C'est peut-être dommage.
Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est un endroit qui mérite effectivement d'être visité. Merci beaucoup Bruno Fulinier et François Hesbourg. Vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. François Hesbourg, je rappelle que votre livre « Cet étrange nazi qui sauva mon père » est paru chez Stock. Bruno Fulinier, votre ouvrage « Les affreux de l'histoire » est paru chez First, tandis que les Arènes ont publié « Vos guerres stupides de l'histoire » coécrites avec Bruno Léandri. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est Juliette Médevielle qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparée par Saad Merzak, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. À la technique, Pierre Faucillon. Notre boutique éphémère réouvre demain dès 9h sur France Inter. Je recevrai une romancière caustique, Anna Krish, et un philosophe bouddhiste, Fabrice Midal. Dans quelques minutes, vous retrouverez Laurent Delmas dans Ciné qui chante avec ce matin Luz.